Les tirs devaient commencer à 11h. À 11h, on entend un bruit infernal venant, mais ils rasaient les toits. On voyait les gars dans les cockpits, c'est bien simple. Hein. Ils sont tournés sur camp et ils sont largué leurs bombes dans la direction d'où les tirs allemands devaient avoir lieu. Le maire, M. Le Fauconnier, avait donc fait évacuer les personnes âgées, les mères, les enfants, enfin, quatre bombardements successifs, dont deux Anglais propres, si on peut dire, mais deux Américains, on voyait, c'était un point dans le haut. Et là, ont été détruites les écoles, enfin, tuant beaucoup de gens. Lorsque nous avions suivi quelques cours de secourisme, le maire, M. Le Fauconnier, avait demandé à la Croix-Rouge de venir nous donner quelques cours de secourisme. C'était vraiment. On soignait un gars qui était tombé en vélo, enfin bref, bon. Et c'est toujours avec émotion que je parle de ces moments-là. Hein. Et donc, notre rôle, c'était automatiquement de soigner, de rapatrier, c'était les brancardiers qui s'en chargeaient, de nous amener les blessés. Notre poste de secours, le premier, était sous les écoles, qui, au deuxième bombardement, il n'y avait plus rien. Un pansement léger aux blessés, etc. Et on les envoyait à l'hôpital de Caen. Voilà. Quatre bombardements successifs ont été ainsi. Notre poste de secours ayant été détruit au dernier bombardement, nous étions revenus à l'Accalmie, la grande maison qui se trouve là. Sur le 60e anniversaire, d'ailleurs, il y a eu une plaque en souvenir du docteur Poulain, un homme qui avait 73 ans au moment, et qui a soigné avec un dévouement exemplaire. Son fils nous a rejoint, avait pu rejoindre les lignes, mais nous a rejoint quelques jours après. Mais le jour J, je vous assure qu'il y avait du boulot. Bon. Le 5 à 11h du soir, je suis peut-être un peu longue, mais je vous raconte ce que j'ai vécu. Le 5 à 11h du soir, un bruit infernal d'avion. Mais on les sentait bas, on s'est dit, ils vont pas bombarder, ils sont trop bas. Bon, ça partait. Un moment après, ils paraissaient lourds, ces avions lourds. Un moment après, je sais plus, une demi-heure après, peut-être même pas, on les, ça repartait en direction de l'Angleterre, nous semblant allégés. Et à ce moment-là, commencer sur la côte, je pense que ça devait être vers la pointe du Hoc, quand on voit l'hécatombe qu'il y a là-bas, toute la nuit, ça a bombardé. Les avions, sans arrêt, circulaient sur la commune. Ça a été la nuit la plus longue pour les commandos, pour ceux qui ont débarqué. Mais moi, je l'ai vécu exactement, parce que je n'ai pas fermé l'œil. Je dis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Toute la nuit, ça a été des bombardements intenses. À un moment donné, puis toujours des avions qui passaient, puis d'autres qui survolaient le village. Et puis, à un moment donné, c'était sur Merville. Bon, j'y suis après, que c'était les planeurs qui prenaient Merville, etc. Mais enfin, bon, il fallait le savoir. Hein. On ignorait vraiment tout. Et à un moment donné, à l'aube naissante, une fusée verte larguée d'un avion sur le port. À ce moment-là, la marine nous a canardés. Il y avait 20, si j'ai bonne mémoire, il y avait 23 tués. Et 16 grands blessés. Mademoiselle Girandier, qui était sage-femme et qui était d'un dévouement exemplaire au poste de secours, sa maison avait été bombardée le premier jour, donc elle logeait chez moi. Un voisin, sachant qu'elle était là, vient la trouver, il me dit, Mademoiselle Girandier, ma petite voisine fait une fausse couche. Bon, elle y est allée, elle me dit, Blanchette, elle me dit, il y a un abri dans la cour de l'abbaye. Donc là, dans le Grand Pré qui était là, il y avait un grand abri en aile. Bon. On y est allé après une accalmie, j'étais avec mes parents, une accalmie, bon on est parti, on est sorti, le port était en feu, nous avons traversé les prés pour accéder par là, enfin bref, ici, les obus tombaient toujours, un est tombé dans la ferme de l'abbaye, dans la ferme, hein. Il y a encore l'impact parce que c'est beaucoup plus clair à cet endroit-là. Donc dans l'abri, j'y trouve eh ben, Paul Loken, qui doit être là, qui me tend un paquet de cigarettes. Il me dit, les Anglais tiennent les ponts de Bénouville et Ranville. Il m'offre une cigarette anglaise à 6h du matin, vous voyez. Et puis après, bon, je suis partie à l'Académie, où c'était toutes gens que je connaissais qui étaient ou grièvement blessés ou tués. J'ai soigné avec un grand courage, un grand dévouement, mais j'étais une automate, je n'étais plus moi-même, je soignais comme une automate. À 8h du matin, nous avions, un peu avant 8h, nous avons eu un jeune Anglais, un nommé John. Quelques instants après, deux autres Anglais, deux autres soldats, le docteur Poulain, what is your name, leur demande, mais nous sommes français, c'était donc deux gars du commando français qui ont débarqué. Et un moment après, le maire, il est 8h sonné au clocher, le maire arrive et il nous dit le débarquement est en cours, la mer est noire de bateaux. Nous, de notre poste de secours d'ici, on n'a rien vu, on a subi, etc. Et alors donc, eh ben voilà le débarquement. Nous avons soigné pendant 63 jours, parce qu'inutile de vous dire que nous étions flanc gauche de l'armée anglaise, qui était de l'autre côté à Salnay, Cabourg, etc. Et tous les jours, les premiers jours, on a eu des bombardements. Donc je vais faire une petite parenthèse. Le premier jour, le soir même du débarquement, des avions allemands, très peu, sont venus. Mais nous avions leur voie, leur force, qui patrouillait tout le jour. Et à la tombée de la nuit, c'était des ballons de barrage qui montaient, qui étaient dispersés, des saucisses, oui, des ballons de barrage, qui montaient à différentes hauteurs, que si des avions venaient, et ils se mettaient dans les câbles. Donc il fallait qu'ils bombardent plus haut. Il y avait la ferme du Pavillon, qui était à l'extrémité du pays, là. Donc les Allemands n'ont pas pu passer. Ils ont largué leurs bombes à l'entrée du village. Et sur la ferme du Pavillon, où s'étaient réfugiés tous les gens, s'ils étaient restés au port le matin, c'était terrible, mais le soir, c'était bien, tandis que à l'extrémité, c'était autre chose. Et bien, la petite femme qui avait fait une fausse couche le matin avec son mari, et bien, je ne sais combien d'autres, ils ont tous été tués à la ferme du Pavillon. Alors, il y a des souvenirs très, très, très poignants malgré tout, parce que c'était toutes gens que je connaissais. Voilà, et ça a duré pendant 63 jours. Nous avons eu des victimes plus ou moins importantes, mais des blessés. Et alors, faut vous dire que le lendemain du débarquement, des hommes qui avaient été du côté de la rafale, du côté du casino, et nous amènent un blessé. C'était un soldat commando français, Rollin. Je suis toujours restée bien avec sa famille. Et 50 ans après, j'ai retrouvé le frère, il m'a dit ça fait 50 ans que je cherche, Blanche, il m'a dit, parce qu'il était venu la veille. Il y a des choses extraordinaires quand, après le débarquement, c'est toujours commémoré, bien sûr. Et le maire nous avait demandé de recevoir, après tous ces événements, bien sûr, de recevoir des commandos. Et il s'est présenté un homme et une femme avec un jeune garçon d'une dizaine d'années. Cette femme, elle se présente, elle me dit, je suis Madame Rollin, je dis, vous êtes la mère de Paul. L'émotion de cette femme, elle me dit, vous connaissez mon fils, nous l'avons soigné au poste de secours. Et il est parti avec nos grands blessés, Madame Mousse et Monsieur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, enfin surtout Madame Mousse. Il y avait Hardy qui lui est parti sur un bateau qui n'était pas le même que Madame Mousse, qui a été torpillée, qui n'est jamais arrivée en Angleterre. Nous avions ben Mounier, qui était un brave de la défense passive, qui, dans l'église, là, il avait un revolver à la main, lui, et il emmenait un commando dans l'église, parce que, se disant, il y avait un sniper dans l'enclocher, et avec les gros piliers que nous avons dans l'église, il était le premier qui débouche, et une autre patrouille arrive, il voit un civil qui avait un revolver, ils l'ont mitraillé. Il est arrivé au poste de secours, inutile de vous dire qu'on a passé des moments assez difficile. Et ça a duré, et donc il est parti, Mounier est parti avec Madame Mousset en Angleterre, où Madame Mousset a été amputée, est revenue mutilée. Elle était, je la vois encore sur son brancard, elle était à plat ventre sur son brancard, une jambe en charpie, une fesse, j'aurais mis mes deux pointes dans le trou qu'elle avait, et puis des multiples éclats partout. Voilà, il faut vous dire que j'ai 90 ans et que je m'en souviens encore comme si c'était hier.
Je crois qu'un témoignage comme celui-là justifie pleinement cette réunion. On va continuer, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a tous dans la tête, on pourrait d'ailleurs le répéter, tout ce qui s'est passé, le débarquement, la prise du casino, etc. Tout ça est bien connu, tous les ans on commémore. Mais justement, je crois que c'est ce côté des choses qui n'a pas souvent été dit, qui a rarement été écrit. Et je crois que des témoignages comme celui-là, avec toute l'émotion de Mme Vaudeville, ça a quand même une valeur exceptionnelle. Parce que la souffrance des civils, il y a eu quand même 10 000 morts en Basse-Normandie, et de très très nombreux blessés. Certains d'ailleurs, qui avaient été évacués de Ouistreham, sont allés se faire tuer à Tilly-sur-Seule ou ailleurs dans les combats.
Ceux qui ont évacué ont vécu un calvaire également, parce qu'ils étaient vraiment pris dans la bataille. Oui, ils étaient vraiment pris dans la bataille. Et quand on voit la Normandie comme elle était, il y a quand même 20 000 victimes qui ont payé de leur vie la libération. Ouais. C'est pour ça. Je tire un grand coup de chapeau à l'équipe du lien de l'histoire qui a été créée. Moi, un coup de chapeau à M. Hacquard qui a été le premier président à avoir cette idée-là. Regrouper tous les témoignages, etc. Et chacun a apporté son petit lot à l'histoire. Et nous avons vécu une histoire